C'est les Street John au couloir en numéro 2. Allez, les Street, c'est parti pour les Street John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Peter Marquez, je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Alors je ne regarde pas.
Allez mon petit bonhomme.
Utah Diapéro.
Allez Louis. Allez mon petit bonhomme.
Allez, salut, on t'entend, c'est bon, tout marche bien. Bonjour à tout le monde, c'est le 11e magazine d'Instant Sport. Alors, 11e magazine avec bien sûr nos trois chroniqueurs présents bien au chaud autour de cette table. Vous venez de l'entendre, Patrick Biancone. Salut Patrick, tu vas bien?
Salut, bonjour à toutes et à tous.
Alors, t'as regardé le match hier de Handel, la finale?
Oui, bien évidemment. Bon, plus serré que ce qu'on pouvait penser, mais on en reparlera. Tu avais posé la question avant le début du championnat pour savoir si je voyais la France, donc je suis assez content puisque la France a gagné, donc j'avais dit oui, donc voilà.
Ouais, t'es meilleur qu'en foot au niveau des pronostics.
C'est vrai, tu peux le dire.
Ouais. Salut Laurent, est-ce que tu es allé voir un match au week-end?
Ah oui, alors bonjour à tout le monde, j'ai fait un gros week-end handball aussi, 4 matchs, 4 victoires.
Handball, on va en parler. Salut Luc, ça va?
Bonjour.
Bien
ça va, bonjour tout le monde.
Pas de match ce week-end pour les féminines?
Non, pas de match.
Mais il y en avait un le week-end dernier.
Absolument.
Et comme on n'a pas eu d'émission, on va en reparler.
Cool.
Alors aujourd'hui, on devait avoir un entraîneur de karaté pour parler sport de combat, donc 3e Dan et tutti quanti, tout était calé. Et quand j'ai dit à ce maître d'arts martiaux que pendant l'émission, pour nos auditeurs, on avait organisé un combat contre Laurent, ben il a annulé au dernier moment sa participation. C'est moche, Laurent.
Ouais, c'est moche parce qu'en plus, j'avais pris un petit peu de vitamine C, du guronzin, j'avais envoyé la patate, quoi. Et dommage, mais c'est que partie remise si cette personne nous écoute.
Le problème, c'est que Laurent est totalement surexcité. On va devoir
se le farcir pendant
toute l'émission, ça va être compliqué. Par contre, si je peux me permettre, on pourrait tacler un petit peu la jambe de ce maître d'armes qui nous l'avait chaudement recommandé. Finalement s'est désisté.
Ouais, on donnera pas de nom, mais c'est vrai, c'est moche. Après, le maître d'armes m'a parlé, il avait un peu peur de l'agilité de Laurent, de son jeu de jambes à la Mohamed Ali, tu vois.
C'est ça. Mm-hmm.
Il s'est dit, j'arriverai jamais à le choper.
Non, on le fera un jour.
Enfin, ce sera pour une prochaine fois. Et il paraît, Luc, ça y est, c'est calé, nous aurons une féminine du basket dans la prochaine émission.
Il paraît. Alors après, je maîtrise pas tout, j'ai l'emploi du temps et enfin, c'est des filles.
Allez, et ouais, c'est compliqué. Justement, les féminines, allez, qui ne jouaient pas ce week-end, mais qui ont joué le week-end dernier, et qui ont perdu 75, on se fait incendier par SMS, pour l'agent du karaté. On s'excuse auprès d'elle. Alors, le week-end dernier, elles ont perdu 75-69 face à Uzès, rapidement, comme c'était le week-end dernier.
Ouais, rapidement, un super match. Franchement, un très très bon match contre une très bonne équipe Uzès, très jeune et très adroite. Voilà, ça s'est joué dans les dernières minutes, c'était très serré. Et après, si vous connaissez un peu le basket, c'est dans les dernières minutes où on fait des fautes parce que on envoie les autres au lancer franc et on essaye en espérant qu'elles marquent pas tout. Et puis voilà, elles ont tout marqué. Puis nous en attaque, ça a été un peu plus compliqué sur les 2-3 dernières minutes, mais c'était vraiment un très bon match.
Et au classement, ça donne quoi alors?
Alors au classement, j'ai pas tout parce qu'il y a pas mal de matchs en retard. C'est un peu compliqué. Ça fait 2 défaites et une victoire.
Aïe.
En 3 journées, donc là, je pense que
ça sent le pâté.
Non, ça va. Il y a 10 journées, donc...
Si, ça sent le pâté.
Il reste... Ah oui, d'accord.
Sur la table.
Le pâté sur la table. Ça reste jouable, il reste 7 journées, donc je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose.
Prochain match,
c'est dimanche à Saint-Christol, qui a pour l'instant gagné, rien gagné, donc c'est un match qu'il va falloir gagner.
Ouais, tranquille alors.
On va essayer.
Ce serait bien 6 points, c'est rien, c'est deux paniers à 3 points.
Ça s'est vraiment joué dans les dernières minutes. Je te dis, voilà, nous on a essayé d'attaquer et ça rentrait pas. Et puis à l'inverse, on a envoyé les filles d'en face sur la ligne de lancer franc en espérant qu'elles ratent. Et puis non, elles avaient une super adresse à 3 points. À 3 points aussi d'ailleurs et au lancer franc. Donc c'est dommage parce que les filles méritaient de gagner parce qu'elles ont fait vraiment un super match. Et les adversaires nous ont dit qu'en face, c'était la première fois qu'elle mettait 75 points dans un match. Donc voilà.
Si tu veux gagner, il faut prendre Laurent avec toi. Hein. C'est le porte-bonheur maintenant.
Ah ouais. Ouais, ouais.
Équipements d'Oise. Ah ouais.
Surtout, il faut que je le prenne sur la feuille de match qui joue.
Je peux booster, moi.
Tu boostes.
Déstabiliser l'adversaire aussi, je sais tout faire.
D'accord, moi j'y penserai pour. Mm-hmm. Tu fais quoi dans le. Non, le prochain match, c'est en mars, ça va, on a le temps.
Ouais, l'instru.
Parfait, allez, l'actualité de ce week-end, grosse désillusion pour le monde volleyball qui s'incline à Grenoble 3-7-1 et qui jouera les playdowns. Patrick, alors je sais qu'on ne peut pas résumer un championnat à un ou deux matchs, c'est toute une saison qui entre en compte bien évidemment, mais sur les derniers rendez-vous capitaux, finalement est-ce que tout ne se serait pas joué le week-end dernier avec la défaite à domicile 3-7-1 face à Mérignac ?
Si, tu peux le dire, tu as raison de le dire. Bon, on suit bien sûr cette équipe depuis le début de la saison, et il y a eu un passage assez fabuleux du Mans de Vallée-Lozère avec 3 victoires d'affilée, en plus 3 fois 3-0. Donc en particulier contre des équipes, bon, il y avait Fréjus qui termine premier de la poule, qui avait explosé au bien court. Après il y a eu une victoire aussi contre Conflans à domicile 3-0. Il y a eu une victoire à Brive 3-0. Donc on arrive à ce match contre Mérignac où on savait qu'il fallait faire la même chose et pour justement jouer pour du beurre ce dernier match à Grenoble. Et donc il y a eu pas ce dimanche, le samedi précédent. Cette réception de Mérignac, une équipe de Mérignac qui est en plus à l'agonie, puisque Mérignac c'est un club omnisport, il y a 28 sections, il y a des problèmes financiers avec la section volée, donc l'omnisport a dit on veut plus que vous jouiez en élite parce que ça coûte trop cher et vous avez pas le budget, donc ils ont appris ça 2-3 jours avant de venir sur Mende. L'entraîneur donc qui était Luc Marquet, l'ancien international qui est entraîneur adjoint de l'équipe de France qui a fait les championnats du monde en Pologne, qui a plus de 200 matchs en équipe de France, qui a été à l'Arago de 7, etc., etc. Bon, qui était entraîneur de Mérignac, il est même pas venu à Mende parce que son contrat a été stoppé. Donc, il y avait quand même beaucoup d'indices positifs.
Alors, en même temps, c'est jamais facile de jouer ce genre d'équipe parce que les mecs,
ils ont rien à perdre.
Et puis, c'est un peu des morts de faim. Ils se disent que de toute façon, ils ont rien à perdre. Et puis, ils ont un peu l'esprit revanchard par rapport à leurs dirigeants, j'imagine. Donc ouais. C'est tout ou rien, en fait. Généralement, ce genre d'équipe, c'est soit les mecs, ils lâchent complètement, ils s'en foutent, ils jouent pas, soit au contraire, ils s'arrachent.
Toi qui allais voir ce match,
voilà.
Patrick.
C'est ce que j'allais dire. Bon, c'est vrai qu'on m'a, après le match, beaucoup de monde m'a dit les mêmes choses, tout ça. Bon, moi, je peux vous dire que, bon, par exemple, il y a un joueur brésilien de Mérignac, qui, bien sûr, est professionnel. Bon, mais il a joué, sur un match en 4-7, il a joué 10 points. Pour pas se blesser, parce que bon, ben lui, c'est son gagne-pain. Donc contre Mende, il a quasiment pas joué, alors que c'est la seule recrue étrangère du club. Donc moi, je veux bien après que ça ressoude tout, mais enfin lui, il était quand même assez dessoudé. C'est le cas de le dire, puisqu'il a pas voulu prendre de risque, il a quasiment pas joué du match. Donc sur ce match-là, Mérignac en plus. Moi, je le dis très franchement, c'est une des plus faibles équipes que j'ai vu de la saison. Là, par exemple, Mende a joué Grenoble. Le match aller, j'avais vu Grenoble. Mende s'était imposé 3-7-2. Il y a un joueur à Grenoble, un pointu mais en plus, c'est un monstre physique. Il a des épaules, on dirait des épaules de rugbyman. Il marque 20 à 25 points par match. Bon, ben, à Mérignac, il n'y avait pas un tel joueur pour faire la différence. Il y a eu un coup de pression au niveau des Mandois.
C'est ce que j'allais te demander. Ils ont été
un peu noyés par cet enjeu, un mental friable. Et bon, après, parce que tu as quand même un Mende à des balles de 7. Il gagne le premier set, mais en plus, dans les 3 sets qui suivent, il y a des balles de 7 à chaque fois. Donc tu peux très bien terminer à 3-0 pour Mende, et puis finalement, tu perds 3-1. Alors, bien sûr, 2 fois 28, 26, 1 fois 27, 25. C'est vrai que ça, bon, moi j'étais catastrophé, je dis franchement, comme beaucoup de monde, et donc on sentait venir cette défaite à Grenoble qui, elle, est plus justifiée.
Ouais, voilà, c'est ce que justifiée. Ok, Luc.
Ouais, parce que Grenoble, en plus, c'était une équipe qui avait encore des choses à jouer.
Bien sûr.
Mais au-delà de ces deux défaites et donc des playdowns qui sont promis au Mandois pour la suite du championnat, il y a aussi la mauvaise opération comptable, parce que du coup, ils vont repartir avec 6 points. je crois que c'est 8 points. Voilà.
Alors, 8 points et la 6e place sur 8.
Voilà, c'est ça.
Alors, ça, je savais pas qu'on gardait.
C'est ça, il y a. Y a...
J'ai mon petit papier.
Ouais, parce que c'est faut en faire un peu.
J'ai mon petit papier. Alors, j'ai fait mes calculs hier soir par rapport aux deux poules. Bon, alors, il faut voir après si je me suis trompé ou pas. Ou
ça
si
peut ça, arriver. Hein.
Si ça va être. Voilà, ça peut arriver. Ou si ça peut être aussi homologué par rapport
Patrick,
à la fédération.
Ça change pas.
Donc les quatre équipes de l'autre poule donc qui vont être en commande, c'est Villefranche en Beaujolais. Donc pour situer, c'est juste au-dessus de Lyon. Après il y a Charenton qui est en banlieue parisienne, il y a le PUC qui est aussi Paris mais qui est la réserve du Paris Volley qui évolue en Pro A. Et la dernière équipe c'est Caudry, c'est dans le nord de la France vers du côté de Lille, enfin dans ce coin-là. Donc ça fait 4 équipes, Mende 5, Brive la 6e équipe, Grenoble 7e équipe et Mérignac la 8e équipe avec un gros point d'interrogation. Est-ce que Mérignac va faire la deuxième phase ou pas? Bon, pour le moment on n'en sait rien et même eux, Mérignac ne sait pas s'ils vont faire cette deuxième phase.
Et Grenoble non plus, ils sont pas qualifiés du coup?
Non, Grenoble n'est pas qualifié parce que Mérignac a perdu contre Conflans.
Ah,
si Mérignac avait battu Conflans, c'était Conflans qui était en play-down, mais comme Conflans a gagné, eh ben Grenoble échoue arrive en play-off et donc c'est Conflans qui passe en play-off.
Okay, si vous avez compris cette explication, ne prenez pas la route.
Voilà. Alors, au niveau des points, si moi
alors, au niveau des points, moi j'ai Charenton avec 15 premier, Grenoble serait second avec 12, après il y a deux équipes troisième, donc Caudry et Mérignac avec 11. Donc le PUC est 5e avec 10 points, Mende 6e avec 8. 7e Brive avec 5 et Villefranche dernier avec 0. Voilà, donc
alors, sachant, il y en a combien qui descendent?
Voilà, alors d'après les infos que Christian Martier m'a donné donc
président
le match de Mérignac, bon quelqu'un quand même qui est au courant de
le président mais du comité départemental voilà, Christian.
Même lui Christian Martier était quand même un peu hésitant parce qu'avec la Fédération française de volleyball, c'est la folie au niveau des règlements, et ça change quasiment tous les 6 mois. Donc a priori, il y aurait que 3 descentes. Ah oui, donc, si tu prends le classement, Mende actuellement serait dans les descentes puisque se retrouverait sixième, mais à 2 points du 5e, à 3 points du 3e.
Bon, sachant qu'a priori, il y en a une qui est déjà entérinée, c'est celle de Mérignac.
Voilà, Mérignac, on ne sait pas si elle va repartir, et en principe, l'année prochaine, il repartirait pas. Mais il faut quand même être prudent parce que Mérignac aurait quand même l'ambition de sortir de l'omnisport et de faire un club à part. Voilà, donc, pouvoir peut-être continuer l'année prochaine. Donc, il y a quand même beaucoup de points d'interrogation. Il y aura des matchs cruciaux, bien évidemment. Voilà, c'est le gendarme cruchot. Et donc voilà, contre Villefranche qui a 0 point, donc Mende va les raconter 2 fois. Donc voilà, il faudra faire le plein et bon. Ouais, voilà, c'est possible quand même.
C'est serré quand même. Ouais, on va suivre ça. Ça commence direct ou il y a une petite pause?
Il y a une pause la semaine prochaine. C'est la Coupe de France.
Ouais, pour le MBL est d'ailleurs qualifié toujours.
Le MBL est en quart de finale, donc a priori ça se joue à Saint-Brieuc avec 4 équipes. Ils jouent quart de finale et demi-finale en même temps, donc sur le week-end. Un match le samedi, un match le dimanche. Donc les 4 équipes, bien sûr, c'est Saint-Brieuc, Mende, donc il y a IAC, Saint-Jean-d'IAC, donc qui est qualifié eux pour les play-offs, et Mérignac. Alors là, question, est-ce que Mérignac va se déplacer à Saint-Brieuc pour ce tour de Coupe de France?
Alors, aussi, autre question, est-ce que le Mende Volleyball va jouer cette Coupe de France à fond au risque de peut-être se blesser, pas se blesser? Est-ce qu'il vaudrait mieux pas garder des forces et de l'énergie?
C'est toujours la question, mais a priori, je pense qu'ils vont la jouer quand même à fond parce que, d'après ce que j'ai compris, il y a une trêve après de plusieurs semaines et donc la deuxième phase recommencerait qu'au mois de mars.
Super,
à voir pour le calendrier, mais a priori c'est ça.
Merci pour ces explications. Honte à moi, j'ai pas trouvé les résultats des féminines. Personne d'entre vous.
Je crois qu'elle jouait pas ce week-end.
Ah, c'est peut-être pour ça que je les ai pas trouvées.
Non, je crois qu'elle jouait pas. Hein. Parce que la prénate jouait, mais.
Sinon, envoyez un message sur le portable de Laurent, on donnera le numéro tout à l'heure si jamais vous avez des résultats. Allez, on va suivre ce MVL. On est un peu déçus quand même. Hein. Après,
oui,
c'est clair. Ces bons résultats.
C'est clair, parce qu'on y croyait, fortement. Il y avait toutes les cartes en main. Hein. Bon, il ne dépaille pas rien sur la fin, qui est préjudiciable. Rien n'est perdu. Là. L'objectif, c'est de se maintenir. C'est largement possible.
Hein. Oui, mais c'est vrai que c'est dommage, parce qu'au moins, ils auraient pu jouer la deuxième phase tranquille, sans avoir aucune pression et rien à perdre. Tout à gagner, finalement. Bon, là, ça... Il y aura un peu de pression, mais bon, on fait confiance aux joueurs pour rebondir.
Oui, et au coach aussi.
Et au coach, oui. Ouais,
c'est surtout ces points de retard qui sont un peu dommageables. Je trouve ça un peu dommage.
Et oui, parce que
Parce que finalement, tu aurais eu Conflans en play-down, tu aurais plus de points parce que tu as battu deux fois Conflans.
Et alors
que Grenoble, tu as perdu, donc si Grenoble était en play-off, tu aurais eu plus de points avec Conflans.
Il rejoue, alors excusez-moi, je ne sais plus si on en a parlé, il rejoue contre tout le monde ou il rejoue que contre les équipes
voilà. Il rejoue contre les 14
qui n'ont pas joué.
C'est pour ça que tu gardes tes points.
Ils ont déjà des défaites à cause de Grenoble. C'est pas beau ça.
Faut un peu avoir fait Matspé, Matsup.
Donc c'est pour ça qu'en deuxième phase, tu n'as que 8 matchs. Puisque tu as 4 équipes, donc aller-retour, ça fait 8 matchs.
Ah oui, ça va être chaud quand même. Ça va être
Il reste que 8 matchs.
Oui, Laurent.
On en reviendra peut-être tout à l'heure, mais au handball féminin, c'est exactement ce qui arrive aussi aux féminines qui sont d'ores et déjà qualifiées en play-off.
Bien.
Mais qui donc gardent leur match contre les autres équipes de play-off, donc Montpellier, le MUC, l'UNEL. Et donc pour l'instant, elles sont à 2 victoires et 3 défaites. Et là, ce week-end, le prochain match, elles vont à l'UNEL. Donc, possibilité d'avoir une autre défaite. Ce qui voudrait dire qu'en deuxième phase, elles repartiraient avec 2 victoires et 4 défaites. Donc, déjà, pas super bien placées, quoi. Ouais. Donc, c'est pas longtemps encore de se relâcher, même qu'on soit.
C'est un peu compliqué. Enfin, moi, j'avoue que.
Non, mais voilà, si tu veux vraiment un exemple concret. Bon, on vient de parler que Mande avait fait un super exploit contre Fréjus à domicile avec une victoire 3-0.
Ouais, ça sert à rien.
Ça sert à rien. Maintenant, au final, ça sert à rien. Les 3 points que tu as marqués, ils sont enlevés parce que comme Fréjus est en play-off et toi, tu es en play-down, le résultat est annulé.
C'est injuste, en fait.
Quelque part.
Vous trouvez pas ça injuste, vous?
Non, mais c'est vrai que, bon.
Il faudrait pas que tout le monde reparte à zéro. Voilà, c'est
juste parce qu'on est 6e. On serait 2e au classement.
Moi, je trouve ça très logique. Ces histoires de play-off où tu repars avec des points contre des trucs.
C'est moi, zéro, quoi.
Ouais, tu repars tout le monde à zéro, quitte à mettre moins d'équipes dans les playoffs et les playdowns.
Moi, je suis d'accord.
C'est bizarre.
Après, ça fait des calculs. Ça veut dire que les mecs qui savent qu'ils vont aller en playdown, ils vont se bouger le cul contre telle équipe parce que. Et puis,
parce qu'elle est moins bonne.
On peut dire l'inverse, ça évite les calculs, comme là, je vais vous parler des féminines, qui sont obligées de le jouer ce match à l'UNEL. Pour pas être pénalisé par la suite.
Oui, mais ça aurait été contre une équipe qui est en play-off, elle l'aurait pas joué.
C'est déjà un play-off.
Ah, bah alors elle s'en fiche alors si elle s'en bat.
Non, elle s'en fiche pas parce que sinon elle repart
Si c'était une équipe qui était en play-down, elle jouerait pas.
Voilà, c'est ce que je veux te dire.
Donc tu réfléchis, c'est nul. En basket, c'est ça, Luc, pour tes féminines?
Non,
tu repars à zéro.
En basket, tu repars à zéro. C'est vrai qu'il réfléchit peu. Tu repars à zéro. C'est mieux finalement. Enfin,
Patrick.
Oui, mais pour citer un autre exemple, pour rester sur Fréjus, qui a dominé de la tête et des épaules cette poule. Bon, mais très tôt, ils ont su qu'ils étaient qualifiés pour les play-offs. Mais par exemple, ils jouent contre Brive. Brive qui était sûr d'être en play-down. Mais pour eux, ce match, il sert à rien.
Puisque il sert à rien.
Voilà, ils peuvent perdre 3-0 contre Brive. Ça n'a aucune conséquence. Parce qu'ils savent
perdre 3-0 contre Mande aussi.
Voilà,
Ça peut permettre, même si on n'en est pas là, ça peut permettre, par exemple, au coach de Brive de faire jouer tous ces jeunes contre Fréjus. Parce que finalement, c'est un match qui sert à rien. Et par exemple, d'aligner après les meilleurs joueurs contre Mérignac. Je trouve pas ça très...
C'est vrai que ça ouvre la porte à tout un tas de scénarios vraiment compliqués.
Cette émission à la Fédération de volley, qui l'écoute un peu.
Si vous nous écoutez.
La Fédération de volley, qu'il faut quand même le signaler, est dans une panade depuis plusieurs années, avec des contestations internes, avec des conseils d'administration qui sont mis en minorité... une situation financière catastrophique, sportivement ça marche parce que il y a une belle génération, mais sinon après au niveau des structures, ça laisse beaucoup à désirer.
Ouais, c'est vraiment pas ça. Non. Allez, rugby honneur Languedoc, le RCML toujours en panne et battu par Servian-Bougeant 37-13. Au classement, Mande est dernier avec 14 points, sachant que l'avant-dernier a déjà 22 points, mais avec un match de plus. Ça sent le sapin. Pour reprendre ton expression.
Ça va être dur. Je pense que la fin de saison va être longue. Tu perds ce dimanche, c'est normal. Bon, tu as une grosse équipe, ils sont second de la poule. Bon, voilà, tu as des difficultés. Tu perds 37-13. Ça paraît logique. Après, bon, je pense que vraiment que la fin de saison va être vraiment dure parce que comme tu l'as dit, maintenant il y a un écart avec juste les équipes qui sont devant. Donc ça va être vraiment compliqué pour reprendre même serait-ce que celui qui est huitième. Bon, saison compliquée, même si elle est meilleure que l'année dernière, saison encore compliquée pour les rugbymen.
Voilà, de toute façon, on ne va pas revenir dessus, on l'a bien expliqué miracle, tous les lundis, voilà. Beaucoup de blessés.
Oui, on savait que c'était compliqué. Un effectif qui n'est pas pléthorique, on ne peut pas faire de miracle non plus. Hein. Il faut avec leurs armes aussi.
Bien sûr, on les soutient.
Il faut quand même le souligner.
Allez, il porte chance, c'est Laurent, on l'a dit. La victoire de l'espoir pour Mende en handball à la 12e journée. Mende s'impose à domicile 27-18 contre Bourgoin. Donc t'es allé voir le match, Laurent. Alors est-ce qu'on m'a dit un beau début de match, un 5-0, un 16-7 à la pause, au final 27-16, rien à dire, Laurent?
Ah si, il y a beaucoup de choses à dire en fait.
Ça tombe bien, voilà, on est là pour ça.
Donc en fait, super match. Franchement, je me suis régalé. Donc toutes les tribunes étaient quasiment pleines. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait des footeux aussi qui étaient venus voir le match. Et super match, donc l'équipe de Bourgoin qui, j'allais dire, n'a pas existé, mais c'était dû à la pugnacité des Mendois. Beaucoup d'énergie, de la première à la dernière minute, ils n'ont jamais baissé d'intensité. Et puis voilà, beaucoup de simplicité. J'ai trouvé qu'il y avait, voilà, ils ont joué plus simplement que d'habitude. Pas de portée de balle, des contre-attaques. C'était sympa, franchement, un très beau match.
Ils sont revenus aux fondamentaux, au final, en se disant, on revient aux fondamentaux,
ouais, voilà,
on joue simple.
De la simplicité, de l'agressivité. Alors, ça a été un match d'homme, hein, franchement, entre des deux côtés, ça a envoyé. Bon, l'arbitre a sifflé correctement des deux côtés quand il y avait des fautes. Et puis voilà, un bon gardien et...
Une belle victoire.
Bienvenue à Dragos Lazar.
Voilà, Dragos qui a fait un très bon match.
Un ancien international roumain.
Voilà.
Qui avait arrêté la saison dernière.
Toute l'équipe est à féliciter. Ouais. Franchement, il ne faut pas retirer un joueur.
Parce qu'on parle de ce match, mais déjà la semaine dernière contre Valence, il y avait eu un gros match aussi. Mmh. Ils avaient perdu de très très peu. Les Mendois, mais ils s'étaient bien accrochés face à une équipe de haut de tableau. Et la Bourgoin, qui sont cinquième, je crois, actuellement, qui était aussi une équipe de haut de tableau. Et du coup, ça leur permet de quitter enfin cette dernière place.
En plus, 9 buts, ça doit faire du bien, quoi. Quand tu perds tous tes matchs de 1 but, 2 buts, c'est rageant. Ouais. Là, tu gagnes et tu gagnes largement, en plus, Patrick.
Non, mais il y a 15 jours, Ludo, tu posais la question, choc psychologique ou pas. Bon, c'est vrai que... On en a discuté. Je pense quand même qu'il y a quelque chose qui s'est produit. Alors on n'est pas là pour comparer la valeur de l'ancien entraîneur et du nouvel entraîneur. C'est pas mon propos. Mais on parlait voilà dans ce que ça peut provoquer dans la réaction d'un groupe et d'une équipe. Donc je pense quand même qu'il se passe quelque chose depuis qu'il y a eu ce changement de coach. Dans l'état d'esprit, bon, je reviens à, c'est vrai, on a reçu des handballeurs et c'est vrai qu'on avait compris, vraiment bien compris ce jour-là, qu'il y avait plus quand même la même hargne, la même volonté, la même cohésion, la même unité au sein de l'équipe pour jouer ces matchs-là. Et donc là, on a quand même l'impression que le MGC retrouve justement les vertus qui avaient fait son succès l'année dernière. Et donc c'est une excellente nouvelle. Et d'ailleurs le prochain match c'est un déplacement à Courpierre qui est dernier. Donc là il faut enchaîner par une première victoire à l'extérieur pour justement continuer la progression et viser ce maintien qui maintenant est de plus en plus envisageable.
Voilà. Alors, j'espère que justement ils seront capables de reproduire une performance athlétique, je dirais, à l'extérieur, parce que bon, c'est vrai que devant son public, t'as toujours tendance un peu à t'enflammer, à être un peu plus motivé. Mais là, il faut qu'à l'extérieur, ils arrivent à reproduire ça. Et bon, je leur souhaite évidemment de tout cœur.
Tu parlais du classement, Patrick, justement. Mende n'est plus dernier. Le club passe devant
Courpierre
et se rapproche du maintien. Alors au classement, donc 12e Courpierre, 11e Mende, 17 points. 10e Meylan, 20 points. Et 9e Fontaine, 21 points. Donc ça se tient à 4 points avec le 9e. C'est jouable.
Oui, c'est jouable.
Après, il faut, s'ils arrivent à faire une série, à enchaîner 2-3 victoires consécutives, bah déjà, à enchaîner une victoire à Courpierre la semaine prochaine, ça peut être bon pour eux, hein, ça peut aller très très vite.
Voilà.
Allez, les féminines.
Les féminines, ouais. Donc, du coup, j'ai fait aussi, puisqu'il n'y avait pas de match de foot, je suis allé voir un petit peu les féminines, puisqu'on en parle tous les week-ends. Donc, une sympathique équipe qui recevait mal classé Clermont-Salagou. Et donc, sans surprise, l'équipe a gagné avec 9 buts d'écart. Un match sérieux, correct. Donc, voilà, un bon petit match où je pourrais citer deux joueuses, Carole Akmel et Alexia Bergogne, qui sont un peu plus démarquées que les coéquipières, mais c'est un match collectif. C'était, C'était un joli match.
Qu'a fait notre amie Marie ? Qu'est-ce qui nous intéresse ?
Marie a bien joué. Elle a bien joué. Elle a boulégué quelques adversaires aussi.
Elle a fait son Luc du basket.
Voilà, elle a fait son Luc. Elle a marqué quelques jolis buts, bien défendus, comme toutes ses coéquipières.
Ouais, bravo les filles. Donc tu l'expliquais, on ne revient pas dessus. Elles vont jouer les play-downs.
Les play-offs, pardon. Avec l'objectif de...
C'est les deux premiers qui montent, mais elles partent avec un handicap.
Pour l'instant, un petit handicap, puisqu'elles sont à 2 victoires et 3 défaites.
Ça peut faire 3-3 si elle gagne à Lunel.
Lunel qui est aussi, je crois...
C'est jamais facile 3-4e. De gagner à Lunel.
Non, c'est pas sûr, je sais.
J'ai joué au foot, moi, toi au basket.
Moi, j'ai joué au basket.
D'accord, donc voilà. Donc, bravo les filles.
En tout cas, elles sont en play-off. C'est la première équipe qu'on voit en play-off. Donc, c'est très bien. Voilà. On leur dit un grand bravo, Laurent.
Donc, je suis aussi allé voir les jeunes pousses de
MGC. Il faut en parler,
c'est MGC,
important.
Donc, les moins de 13 filles qui ont battu l'équipe de Nîmes, le HBCN, et qui sont donc championnes de leur catégorie. Donc, bravo les filles.
Bravo, il y a la relève.
Il y a la relève.
Ok, allez, en football, match reporté pour la FL en raison des terrains enneigés. Par contre, au niveau des résultats de ce week-end, ça c'est intéressant. Paulan Pézenas gagne juste 1-0 contre Latte. Et surtout, Narbonne 0-0 contre Perpignan. La Grande Motte 0-0 contre Alberès-Argelès. Au classement, Paulan 44 points avec 13 matchs. Narbonne 2e, 40 points, 14 matchs. La Grande Motte 38 points, 14 matchs. Mende 35 points, mais 12 matchs. Et Aguemort 35 points, 13 matchs. Donc en gros, on va imaginer que la FL gagne ses deux matchs en retard. L'équipe revient à 3 points de Paulan, Patrick.
Paulan qui a un match de retard aussi. Hein.
Voilà. Oui, mais revient à 3 points et Paulan a un match de retard.
Voilà. Donc.
En disant que Paulan perd son match.
Ouais, et Paulan perd son match.
Bah, d'autant que Paulan, ils sont pas.
C'est ce qui est bien dommage. En ce moment, ils gagnent juste. Hein,
bah, ils ont fait deux nuls d'affilée.
C'est fait 0-0 chez eux. Ouais.
Et c'est vraiment dommage que la FL n'ait pas réussi son match à Narbonne et perdu à Narbonne. Ça serait vraiment bien, bien rapproché.
Ce qui est intéressant surtout, c'est que tu gagnes ces deux matchs, tu passes second, tu dépasses Narbonne et la Grande Motte qui, eux, ont déjà 14 matchs et n'ont pas de match en retard.
Il faut déjà gagner Aigues-Mortes. A priori, le match, il n'est pas calé encore, je crois.
Non.
Patrick.
Oui, bon, la chance de l'AFL cette année, si on peut dire, hein, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'équipe qui domine le championnat. Donc, même si Paulan a 9 points d'écart, il y a quand même un match en retard par rapport à l'AFL. Et puis, on voit quand même que Paulan peut perdre des points. Parce que 0-0 chez eux contre Argelès, bon, c'est clairement une contre-performance. Parce que Argelès n'est pas un candidat à l'accession. Donc, voilà, on sait que Paulan quand même est friable et est capable de laisser des points. Tu viens de citer Narbonne aussi. Narbonne n'a fait que match nul chez lui
contre Perpignan.
Voilà, ce week-end. Perpignan, Mende était allé s'imposer à Perpignan le week-end il y a 15 jours. Donc on voit que voilà, il y a beaucoup d'équipes, certes, qui se tiennent proches en haut, mais il n'y a pas une équipe qui survole le championnat. Et donc c'est vrai que c'est ça le risque, c'est qu'il y ait une équipe vraiment qui parte, parce que bon, mais comme le match de Narbonne a été inversé, sur les 5 derniers matchs de la saison, Mende va recevoir 4 fois, il va se déplacer à Uzès, la réserve d'Uzès, qui sera à cette époque-là déjà condamnée. Donc, calendrier qui semble favorable en fin de saison. Mais c'est sûr que si tu as 15 points de retard, Donc, c'est cette chance-là qui n'est pas d'équipe qui domine.
Ouais.
Fait, c'était juste pour compléter ce que disait Patrick, c'est qu'il y a 5-6 équipes qui sont encore concernées. Donc, ce qui veut dire que ces 5-6 équipes ne vont rien lâcher face aux autres. Donc, parce qu'il y a des petits arrangements entre amis. Bon, là, ça ne sera pas le cas. Donc ça va être, j'espère, chaud. Jusqu'à la fin de la saison et plus longtemps possible pour la FL.
Luc ?
Ouais, après, c'est aussi le problème de ce championnat, c'est que tout le monde peut battre tout le monde. Et on le voit chaque semaine. C'est qu'il n'y a pas, effectivement, comme le dit Patrick, il n'y a pas une équipe, même si Paulan est quand même favori, et quand même un ton au-dessus que la plupart des autres équipes. Ils ont toujours pas perdu, je crois, cette saison.
Non, ils n'ont pas perdu.
Même si, ils n'ont quand même toujours pas perdu. Et l'AFL en est déjà deux défaites.
Mais Narbonne, Paulan.
Narbonne, Paulan.
Le match en retard.
Corbière.
Donc voilà, c'est un championnat qui est très très serré.
Avec 3 défaites et 4-6 points, c'est bien quand même.
Voilà, c'est ça.
Mais
tu pourrais déjà être hors course.
Mais en même temps, 6 points dans un championnat comme ça qui est très serré, c'est beaucoup. Enfin,
déjà tu dois jouer contre elle, donc
tu dois jouer contre elle. Mais tu sais, c'est
après comme les matchs en retard ne sont pas gagnés aussi. Hein,
exactement. Comme par exemple, tu vas à Perpignan, tu as un match en retard à Perpignan qui va se jouer début mars. Et puis, tu as ce match contre Aigues Mortes qui est pas encore fixé, quoi.
C'est, nous, enfin, on voit la comparaison au basket. Par exemple, quand t'as 4 points de retard sur un match qui tourne autour de 40 points, pour chacune des deux équipes, c'est beaucoup plus dur à remonter un écart que quand t'as 90, 95, quelque chose comme ça. Tu vois, c'est beaucoup plus serré. Si. Et c'est un peu pareil dans ce championnat-là. 6 points sur des équipes qui sont très très accrochées où il y a pas d'écart, c'est beaucoup plus compliqué à remonter, à refaire un écart que s'il y a vraiment des équipes qui sont larguées.
Si on veut jouer l'accession, maintenant il va falloir minimiser les petits écarts de conduite.
Alors l'explication de Luc est sponsorisée par le domaine de la Berthette Côte du Rhône. Très bien, on revient rapidement sur le match en retard d'il y a 15 jours, cette très mauvaise opération, on attendait une victoire, très très mauvaise opération, ce 2-0 contre Narbonne, Patrick.
Et oui, c'est vrai que c'était un match au sommet, on le savait. Alors une équipe de Narbonne qui réussit pas vraiment à cette équipe mandoise depuis quelques saisons, puisque la saison dernière, Narbonne s'était imposée à Delmas. Tu prends 2 buts dans le dernier quart d'heure. C'est dommage parce que un bon petit 0-0 dans un vent à tout casser qui dépassait les 100 km/h. Voilà, donc tu dis qu'en Lozère tu peux pas jouer parce que soi-disant il va geler alors que finalement ce dimanche là c'était pas la catastrophe. Ouais. Tu aurais très bien pu jouer, hein, Laurent, je pense que tu me contrediras pas. Mm-hmm. Et donc tu vas jouer à Narbonne alors que tu sais que le pire ennemi pour un footballeur c'est le vent. Et tu as joué dans des bourrasques, comme on m'a raconté. Tu joues à Narbonne, à Perpignan. Moi, je sais qu'il y a eu des rafales jusqu'à 140 km/h. Donc, à Narbonne, tu devais dépasser les 100 sans problème.
C'est un peu le problème, c'est que c'est très facile de reporter des matchs pour la pluie, la neige, etc. Et pour le vent, c'est très rare qu'on reporte des matchs, finalement. Alors que je pense que c'est plus terrible de jouer avec du vent à 100 ou avec des bourrasques comme ça que sur un terrain trop gras ou des choses. Ouais, ouais.
Alors on invite la Fédération française de football à nous écouter. Toutes les fédérations vont nous écouter maintenant. On est polémique, ça y est, on part polémique.
C'est vrai, c'est
la 11e émission.
C'est
vrai.
Ça y est, on est fou.
Ok, on suit l'AFL. Quelqu'un sait quand le prochain match de l'AFL ce week-end, c'est à l'extérieur.
Ce week-end, c'est de la Coupe, Gare-Lozère et Coupe Lozère.
Oui.
Donc a priori, Coupe Gare-Lozère pour l'équipe première et Coupe Lozère pour l'équipe pour l'équipe 2.
D'accord, l'équipe 3 se retrouve dans quel bar ce week-end?
La tournée.
C'est la tournée, c'est dans tout.
Et okay. Le prochain match du championnat,
ce week-end, l'équipe 3 reçoit le Masse Gros si le temps le permet.
Ouf, gros match.
Et donc, championnat, donc c'est dans 15 jours.
C'est dans 15 jours, championnat.
15 jours avec un déplacement à... j'ai aucune idée.
Ouais. Allez, Laurent va se renseigner.
Si, à Argelès.
Argelès, oui. Ok.
Et je crois que du vin, d'ailleurs, à Argelès.
Pardon?
Ouais. Il y a beaucoup de vin à Argelès.
Voilà, exactement.
Et je me demande si après, il n'y a pas le match en retard qui est calé.
Non, je crois que c'est plus tard.
Début mars, je crois, peut-être.
Ouais, c'est début mars.
Ouais. Allez, en tout cas.
Le premier match en retard.
Hein. La réserve jouée, division honneur régionale, elle perd à Saint-Gilles 3-1. But pour Saint-Gilles, je te donne la parole après Luc. Abdeselem, 6e. Benjaleb, 47e et 48e. But pour Mende, Chevalier à la 84e. Donc apparemment sur ce match rien à dire. Je sais pas si t'as eu des échos, Luc.
Non, mais c'est pas une bonne affaire.
Pas eu d'échos, mais bon, on voit quand même pas une bonne affaire. 3-0 pour Saint-Gilles, le match est plié.
Et 47e, 48e, ça fait mal, quoi. Tu rentres au vestiaire, là, tu perdais 1-0 et tout d'un coup tu perds 3-0, tu baisses les
bras. Non, mais 3-0 à la mi-temps.
Ouais.
3-0 à la mi-temps.
C'est quand même tout sauf une bonne affaire, hein, cette défaite.
Non, mais ça fait plusieurs semaines. Hein, si tu peux
remettre. Ça fait plusieurs semaines.
Cette équipe m'inquiète, je le dis depuis un moment, cette équipe m'inquiète parce qu'il y avait beaucoup de matchs en retard chez ceux qui étaient soi-disant derrière. Et puis là, maintenant, tout le monde, le retard est récupéré. Donc on est quasiment à un match près, toutes les équipes ont le même nombre de rencontres. Et donc tu te rends compte que tu es à 20 derniers et donc ça sent mauvais, ça fait
plusieurs semaines que c'est pas terrible, mais il y a quand même eu entre temps une belle victoire à 4 buts à
contre le dernier
au classement. Nîmes La Salignan dernier, 18 points, on part du bas, on revient vers le haut. Montpellier Atlas 22 points 12e, Mende 24 points 11e, Nîmes Soleil Levant 24 points, égalité avec Mende, Uchaud 27 points, Saint-Gilles 28 points et après ça monte à 31. Donc on est avec 24 points, on est à 3 points du 9e quand même. Et à 4 points du 8e. Mmh.
Mais on doit avoir encore un match d'avance sur ces équipes de derrière. Donc,
on a un match d'avance, nous
ouais, je crois.
Aïe, ouais. Et c'est une mauvaise dynamique aussi, à part ce match gagné.
Ouais,
Laurent,
quand on a sali. Ouais.
Bon, après, ils savaient que ce serait dur, hein, que ce serait compliqué.
Oui, c'est clair.
Ouais. On parle de mauvaise dynamique, baisse de régime pour Marc Bejol aussi.
Oui, mais pour revenir sur Mande, c'est vrai quand même. Il y a quand même des joueurs qui jouent dans cette équipe réserve, qui jouent en équipe 1 il n'y a pas si longtemps. Bon, t'as Brunel qui joue beaucoup de matchs. Bon, t'as Flo Baudin qui en a fait pas mal. T'as Ibrahima Diédiou, qui aussi joue dans cette équipe et qui a fait beaucoup de matchs en équipe 1. Bon, voilà, il y a des joueurs quand même, qui ont connu quand même un niveau tout autre. Et bon, t'as le petit Trottoin qui faisait partie de cette aventure en Coupe de France il y a deux saisons. Il y a des joueurs quand même, il y a une équipe, c'est pas que des jeunes de 18 ans qui arrivent comme ça, comme des fleurs. Hein.
Laurent, toi qui les côtoies.
Oui, ben écoute, pour l'instant, il n'y a pas la cohésion voulue.
Voilà, c'est ça. C'est bien que tu le dises.
C'est certes. Alors, je ne sais pas d'où est le problème. Alors, peut-être que. Ils ont réussi à changer leur fonctionnement ces dernières semaines, là, depuis le début de la trêve, où il y a une séance d'entraînement supplémentaire proposée aux joueurs, puisque jusqu'à présent, ils faisaient que deux séances par semaine. Quand on sait que par rapport au boulot, des fois, on peut en rater qu'une. Donc, c'est vrai que c'était compliqué. Là, maintenant, il y a trois séances de proposées. Des joueurs qui reviennent de blessure, donc ils arrivent à faire des séances d'entraînement un peu plus correctes. Pour l'instant, bon, mais ça s'est pas traduit ce week-end-là. C'est peut-être un accident supplémentaire, je sais pas. Mais il faut qu'ils se remobilisent, tout simplement, repartir en guerrier au prochain match. Et il faut des points maintenant.
Est-ce que le fait qu'il y ait des joueurs qui passent de l'équipe 1 à l'équipe 2 pour venir un peu prêter même force, ça peut prêter à conséquence sur cette cohésion, je sais pas, qu'est-ce que...
Non, pas du tout, parce que les joueurs qui jouaient en équipe 1, qui reviennent, bon, ils se connaissent tous depuis très longtemps, il n'y a pas de jalousie. Les joueurs qui descendent de l'équipe 1...
Pas de jalousie, juste de cohésion, de jouer ensemble, en fait.
Tout le monde se connaît.
Motivation.
Les joueurs qui descendent de l'équipe 1, comme on les citait, c'est des joueurs qui se donnent à 100%, que ce soit en équipe 1 ou en équipe 2. Donc là, sur ce côté-là, il n'y a pas de souci. Non, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même quelques joueurs qui, il y a deux ans de ça, n'avaient joué qu'en PHEB. Et donc, voilà. Après, est-ce qu'on peut tout de suite trouver un niveau DHR? Moi, je crois que oui. Il suffit de bosser, bien bosser l'entraînement et prendre confiance en soi.
Ouais, il faut quand même
y croire. Hein, il faut pas.
Est-ce qu'on
pas baisser les bras.
Est-ce qu'on pourrait pas faire monter des joueurs de l'équipe 3 en équipe 2 aussi? J'ai un nom en tête, mais je ne dévoilerai pas.
Ça, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée. Et puis, on va faire confiance aux joueurs présents. Et pas fini.
Pour l'instant, c'est resserré. 4 points avec le 8e. C'est quoi? C'est les deux derniers qui descendent? Les 3?
Voilà, on ne le sait pas encore.
C'est vrai que c'est impossible 2, mais bon, il peut y en avoir 3.
D'accord, ok. Alors, donc, je disais baisse de régime pour Marvejol également sur les deux derniers week-ends. Alors, je rappelle, Marvejol qui perd à Rochefort 1-0, et ce week-end.
À Marvejol, à domicile.
À Marvejol, pardon, ouais. Je me suis trompé. Et également ce week-end, défaite contre Saint-Privat 2-1. Mauvaise dynamique. Hein.
Eh oui, bon, c'est vrai que Marvejol, j'y croyais, je l'ai répété plusieurs fois. Bon, c'est vrai que c'est un championnat hyper serré, et puis tu vois, ça se joue à pas grand-chose à chaque fois sur un but. Alors, j'ai mon ami Gérard Cafaro qui s'occupe de la une, qui suit tous les matchs. Donc, je l'ai vu après le match perdu contre Rochefort. Il m'a dit que c'est impossible, quoi. Même Rochefort, il se demande encore comment ils ont fait. Même le match nul, ça aurait été vraiment le hold-up pour Rochefort. Alors, t'imagines une victoire pour les Gardois. Voilà, une maladresse devant le but, ce match contre Rochefort, assez hallucinante, avec vraiment des immanquables, 3-4 immanquables, des protos.
Inhabituel en plus, parce qu'ils sont relativement à droite devant le but depuis.
Bon, après, par contre, hier, tu perds à Saint-Privat des Vieux, qui est deuxième au classement, tu perds 2-1, voilà, c'est quand même plus logique. Mais c'est vrai que cette défaite à domicile contre Rochefort, elle fait mal.
Ouais, ça arrive, des matchs que tu dois gagner, que tu gagnes pas, ça arrive à tout le monde. Ok, Marvejol, par contre, j'ai pas le classement, alors je sais pas, ils étaient bien classés.
Tableau,
après ces deux défaites, ils sont bien descendus.
Ok, alors avant de passer à l'actualité internationale, un petit rappel avec le 29e trèfle lausérien qui les inscriptions ouvrent ce samedi. Oui. Donc on le rappelle, samedi 23h, le site internet du motoclub, l'an dernier, 300 places mises à disposition qui ont été attribuées comme les autres années en 3 minutes.
Ça va très très vite.
Donc il va falloir penser à s'inscrire. Hein, Laurent ?
Oui, oui, oui.
Il vaut mieux connaître quelqu'un pour avoir des places après.
Ouais. C'est mieux, ouais. Allez, on se fait une petite pause musicale, de la musique cubaine, c'est Laurent qui m'a demandé, et après on revient pour cette actualité internationale, nationale, avec beaucoup d'événements à décrypter. C'est parti. C'est vrai.
Jam canta, un ventre se vacé. Un aroma d'aquel país. Cabe, terra querida, nós tudo temos no coração. Já cantar, um bem trazer você. O aroma daquele país. Cabe, terra querida, nós tudo temos no coração. Café, manda mantenha, se bem só no beijo só dá, para todos os filhos na terra longe, eles vão falar vocês, mas se negócio tem que ter calor, para todos os filhos no mesmo amor. Café, manda mantenha, se bem só no beijo só dá, para todos os filhos na terra longe, eles sempre vão pra vocês, mas se negócio tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Cabe, terra querida, nós tudo treina coração. Cabe, manda mantenha, que se bem só no beijo só dá, para todos os filhos na terra longe, eles sempre vão pra vocês. Se negócio tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Café, manda mantenha, se bem só no beijo só dá, para todos os filhos na terra longe, eles sempre vão falar vocês. Mas se negócio tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se negócio tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se negócio tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se negócio tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor. Mas se negócio tem que ter calor, para todos os filhos com o mesmo amor.
Allez, c'est reparti. Alors, Luc, tu me précisais, elle n'est pas de Cuba.
Non, elle est capverdienne, Césaria Évora.
Voilà, autant pour moi, je suis désolé.
Tu as confondu avec le joueur du Qatar qui est originaire de Cuba et qui a fait un match magnifique hier contre la France.
Et si tu veux même être précis, elle a enregistré la plupart de ses albums au Vigan.
Tiens donc.
Dans le Gard.
Ouais, bah, c'est une bonne information pour nos auditeurs. Allez, tu as parlé de.
Bienvenue sur 30 FM.
Sur c'est ça. Radio. Allez, t'as parlé de Hand, Patrick, t'as bien raison. Ben, on va commencer avec cette actualité internationale. Bien sûr, ce chiffre 5, cinquième titre de champion du monde pour l'équipe de France de handball, qui a gagné le Qatar chez lui en finale hier, 25-22. Alors, qui c'est qui veut parler sur ce match et sur le championnat du monde dans sa globalité? On commence par qui? Allez, Luc, vas-y.
Allez, au-delà du cinquième titre, c'est qu'en plus, la France a récupéré les trois couronnes Olympique, Europe. Champion olympique, champion d'Europe et champion du monde. Voilà. Après, avec un championnat du monde qui a été très très bien mené de bout à bout par la bande à Claude Onesta. Moi, le seul bémol que je mettrais, c'est cette équipe du Qatar.
Ouais, mais ça, on va en reparler après. Luc. Allez, on en parle maintenant, si tu veux. Ouais.
Cette équipe, enfin, moi, j'ai énormément de mal. Par exemple, Bertrand Rouanet, qui est un super joueur, qui est champion du monde en 2011 avec l'équipe de France. Et qui se retrouve vice-champion du monde de 2015 avec l'équipe du Qatar. Saric, là, le gardien de Barcelone, qui a joué sous quatre maillots différents, hein, la Serbie, la Yougoslavie, la Bosnie et le Qatar. Voilà, moi, leur allié là, qui a mis des tirs extraordinaires, la capotée, voilà. Qui est cubain. Donc voilà, une équipe du Qatar avec quatre joueurs.
Deux joueurs sont nés.
Capoté, oui.
Capoté. Il a failli faire capoter la France.
Voilà, des Tunisiens. Il y en a deux ou quatre, on sait plus.
Deux joueurs sont nés au Qatar. 14 joueurs d'origine étrangère, donc bosniens, cubains, égyptiens, espagnols, français, iraniens, monténégrins, syriens, tunisiens.
Voilà.
Ça vous gêne, ça? C'est Patrick,
moi, ça, alors, si je peux finir, ça me gêne. Ça me gêne dans la mesure où ces joueurs-là ont déjà porté un autre maillot et ont déjà été sélectionnés à très haut niveau.
Voilà, il faut attendre 3 ans.
Il faut attendre 3 ans.
Contrairement au foot où tu as une sélection.
C'est impossible.
Voilà.
C'est impossible.
Alors c'est jusqu'aux espoirs, hein, jusqu'au moins de 23 ans si tu n'as pas eu de sélection.
Non, mais tu citais.
Et surtout, il y a quelque chose aussi que le foot a mis en place, parce qu'ils ont aussi fait face à cette vague de naturalisation avec le Qatar notamment. C'est qu'il faut qu'il y ait un lien direct avec le pays au foot, c'est-à-dire que soit que le joueur en question ait vécu au moins 2 ans dans le pays pour lequel il veut porter le maillot, ou qu'il ait une ascendance directe des parents, des grands-parents, qui soient nés dans ce pays. Alors que là, finalement, c'est à coup de, je crois que c'était 100 ou 200 000 euros pour les naturalisations. Ouais, moi, honnêtement, ça me gêne. Alors après, c'est super, ils ont fait c'est une super équipe, mais bon, voilà, ça me gêne.
C'est 100 ou 200 000 euros, ils reviennent à qui? Aux joueurs?
Aux joueurs, bien sûr. Ah oui, aux joueurs.
Ah ouais, c'est contesté, puisque Rouanet dit qu'il a signé pour rien du tout. Bon, il a un salaire, il gagne Rouanet a été clair, il a dit qu'il a eu aucune prime à la signature, c'est-à-dire pour rejoindre l'équipe du Qatar. Par contre, il dit qu'il gagne le double de ce qu'il gagnerait dans un club français. Mais là, c'est son salaire mensuel pour être licencié justement à la Fédération du Qatar. Et au niveau des primes, il a contesté tous les chiffres qui ont été sortis, parce qu'il paraît que bon, il se dit qu'un jour l'émir, donc celui qui est propriétaire aussi du Paris Saint-Germain, est rentré dans le vestiaire et a dit bon, mais aujourd'hui c'est 100 000 euros pour vous. Bon, il a contesté. Il dit que au niveau des primes, il n'y a aucun chiffre qui a été officialisé avant la compétition.
C'est peut-être plus.
Et donc ils ne savent pas. Enfin, avant la finale, ils ne savaient pas combien chaque joueur aller toucher de prime, ça dépendait du bon vouloir de l'émir.
Au-delà de ça, Patrick, éthiquement, ça te gêne?
Pas du tout. Alors moi, je vais vous dire franchement, ça ne me gêne absolument pas. Bon, tu parlais de Rouanet qui était en 2011, mais je te dis franchement, si Rouanet actuellement ne faisait pas une carrière au Qatar, qui se souviendrait que Rouanet a non seulement été en équipe de France, mais en plus, il a été champion du monde en 2011. Je pense que dans le parcours en 2011, est-ce qu'il a joué? Est-ce qu'il a mis le pied sur le parquet sur des matchs importants?
Je suis pas d'accord.
Je suis pas d'accord non plus.
Bertrand Rouanet, c'est un super joueur. C'est un joueur qui a été un des meilleurs joueurs de
Il a eu beaucoup de blessures.
Tu te souviendras de Fernandez, de Karabatic, de etc. Mais voilà, au meilleur, mais tu te souviendras pas de Bertrand Rouanet.
Il est même venu ici, Bertrand Rouanet.
Moi,
avec Dunkerque.
Non, mais je te parle des supporters français.
Ouais, mais alors, parlons pas de Rouanet.
Personne ne sait qui est Bertrand Rouanet.
Parlons pas de Rouanet, parlons de Saric, le gardien.
Là, on est d'accord. C'est le seul que tu peux dire.
Qui est le gardien du Barça.
Voilà, c'est le seul que tu peux dire. Alors voilà,
je suis pas sûr que ça soit le seul, mais finis, Patrick.
Je finis mon raisonnement. D'abord, premièrement, ce qui me choque pas, c'est qu'il y a une énorme majorité des joueurs du Qatar, d'abord, qui sont arabes. Donc ça, je trouve que c'est bien. Parce que comment tu veux faire une équipe avec que du Qatar pour être donc ça me paraît normal.
Le 5 majeur, il y a 3 mecs de l'Est. Hein,
un Tunisien.
Non, mais attends,
un Égyptien,
attends,
pardon.
Attends. Mais le Tunisien a énormément joué. L'Égyptien, qui a un physique de rugbyman,
qui a pris deux fois deux minutes.
Voilà, il a énormément joué. T'as l'ailier qui à la fin rate tous ses tirs. Bon, mais je crois que même lui, il est né au Qatar. Donc, il y a quand même trois Syriens qui ont énormément joué dans cette finale. Donc, comment tu veux faire une équipe de Syrie, par exemple, pour atteindre un joueur champion du monde?
Oui, mais
donc,
ça ne me choque pas
qu'ils aient réussi à justement fédérer tout un tas de joueurs des pays arabes pour jouer au Qatar.
C'est pas l'équipe d'Arabie, c'est l'équipe du Qatar.
C'est
comme si nous on prenait tous les Yougos, les Espagnols, on disait ils sont européens, on a le droit.
C'est comme si on prenait les Albanais, des Albanais, des Serbes, des Bosniaques. Alors, ils sont bien, ils viennent jouer en équipe de France.
Pour l'internationalisation de ce sport, je trouve que c'est une bonne chose.
L'internationalisation.
Alors après on passe du côté des Européens. Là, c'est plus discutable. Mais quand même, ceux qui sont venus, qui les connaissait? Bon, il y a un petit ailier gauche, la Mimi, je sais pas comment il s'appelait, Mimi Zevic. Mais attends, mais personne ne connaissait celui-là. Le seul qui était connu, et tu l'as dit, c'est le gardien du Barça.
Mimi Matic.
Qui est vraiment extraordinaire. Si tu pouvais recruter des top joueurs, c'est-à-dire Hansen le Danois, c'est-à-dire Karabatic le Français, si ils pouvaient recruter ces joueurs-là pour jouer au Qatar, là je serais complètement contre. Mais on parle de joueurs arabes et en plus avec des joueurs européens, je te le dis. Ouais. De seconde zone, donc ça me gêne pas.
D'accord. Pas qu'au prochain championnat du monde, Karabatic joue pour le Qatar, du coup.
Là, ça serait choquant. Là, on est d'accord.
Imagine Karabatic, en trois ans, il a 31 ans l'année prochaine, dit, hop, j'arrête ma carrière internationale, j'en ai marre. 34 ans, le Qatar l'appelle, tu dis quoi?
Je vais dire même mieux. Ce championnat du monde, dans l'équipe d'Algérie, il y avait un joueur qui a joué en équipe de France, qui joue à Dunkerque depuis des années, qui maintenant est passé parce que ça fait 3 ans qu'il n'a pas joué en équipe de France, donc qui jouait pour l'équipe d'Algérie, ça a choqué personne. Mais l'Algérie a fini dernière.
Non, bien évidemment.
Mais c'est le même principe que Rouanet. Alors pourquoi Rouanet ne pouvait pas jouer avec le Qatar,
Patrick,
et ce joueur de
jouer
plus long pourrait jouer avec l'Algérie?
Mais pour moi c'est pareil. C'est cette idée là d'avoir été international A dans n'importe quel pays et de pouvoir changer de maillot. Ça a été le cas. Hein. Di Stéfano, il a joué pour l'Espagne.
Bien sûr.
L'Argentine, c'est Puskas qui a joué pour l'Espagne et la Hongrie, qui a été d'ailleurs vice-champion du monde avec la Hongrie.
Oui.
Moi, c'est ce concept-là. Que t'aies 1 ou 15 joueurs, je trouve ça pas très honnête, pas très moral. Et d'autant plus quand tu en as 14 sur 16, récupérer 3-4 joueurs pour encadrer des jeunes et pour l'avenir. Pour faire une équipe du Qatar solide ou qui ressemble à quelque chose pour l'avenir, je suis d'accord. Mais là, tu passes d'une équipe qui a perdu tous ses matchs au dernier championnat d'Europe et qui est là, du monde.
Non, mais c'est le vrai débat. On est au cœur du débat.
C'est un peu trop gros.
Alors, Luc, Patrick, avant de donner la parole à Laurent qui l'a pas vu encore. Laurent, et éthiquement, c'est vrai qu'on parle de gens qui jouent pour un pays, pour un maillot, pour une culture, pour une nation. C'est ça aussi.
Mais est-ce que tu as vu tous les joueurs du Qatar, y compris Rouanet, qui chante l'hymne qatarien en arabe,
Oui. 100 000 euros si tu lèves la main et 50 000 de plus si tu chantes, on leur dit.
À 100 000 dollars,
je viens
et à la fin, au moment de la remise des récompenses, tu as l'émir du Qatar, donc un des hommes les plus riches au monde, qui prend chaque joueur dans ses bras. Pas lui serrer la main. L'accolade dans les bras, il prend chaque joueur.
Mais ça c'est beau.
Allez,
c'est
le sport. C'est beau. Laurent, pour clôturer ce débat.
Je suis d'accord avec tout le monde. Je crois que Patrick
a raison. Il y a le débat. Aussi.
Non, moi déjà ils ont respecté le règlement. S'ils n'ont pas triché,
c'est pas contre le Qatar. Le Qatar, ils en jouent, ils ont raison.
Ils l'ont respecté.
Après, Onestaï, il s'est énervé.
Bien sûr.
Mais après, c'est sûr que comment on peut aimer ce maillot qu'on connaissait pas 6 mois avant.
Pour un pays,
la main sur le cœur, tout ça. C'était un peu trop, quoi.
Tu vois, l'Algérie qui a pas d'argent, ils sont lésés. Eux, ils terminent dernier, ils gagnent aucun match parce qu'ils ont pas d'argent. Donc c'est dégueulasse.
Et puis tu vois, on parlait du joueur, je sais plus lequel c'était, qui a joué pour l'Algérie, mais qui avait des parents d'origine d'origine algérienne. Donc voilà, ouais. ça, alors que là, au Qatar, ils n'ont aucune origine, les trois quarts n'en ont aucune. Après, il y a une règle. Pour moi, c'est la règle qui est mal faite. Après, le Qatar l'utilise, tant mieux pour eux, ils ont raison.
Allez, on va parler de.
C'est un peu comme la règle d'attribution de la Coupe du Monde.
Voilà.
Mais d'ailleurs,
le truc qui
peut être choquant, c'est la demi-finale contre la Pologne, où clairement, il y a des décisions arbitrales qui sont largement en faveur du Qatar et qui permettent au Qatar de passer
la
finale.
On va parler de la CAN après.
Là, c'est choquant. Là, on est d'accord.
Le quart de finale contre l'Allemagne a fait jaser aussi.
Oui. Mais là, contre la Pologne, c'est encore pire.
Allez, stop.
Est-ce qu'on parle du quart de finale de la CAN ou pas tout de suite?
On va parler de la Coupe d'Afrique des Nations.
Là aussi, on peut parler.
Nos auditeurs ne nous voient pas aujourd'hui.
La Guinée équatoriale.
Il y a Ludo qui a sorti le pull.
Le maillot du Qatar.
Du Qatar. Couleur du Qatar.
Et il est bordeaux, comme la couleur de la porte d'ailleurs.
Et il chante l'hymne. Il a chanté l'hymne là-bas. Il a été
acheté par le Qatar aussi, parce que la porte, c'est.
Non, mais moi, 200 000 € le match, je joue pour le Qatar. Mais ils m'ont pas.
Il semblerait que 48 FM a été acheté par le Qatar, parce que Ludo est arrivé en Lamborghini tout à l'heure.
Ça, il faut pas le dire. Allez, on parle.
Avec un turban sur la tête.
On parle de l'équipe de France quand on parle du sport, des sportifs français. Avec cette nouvelle médaille d'or, Jérôme Fernandez, tiré au meilleur, compte 9 titres, 2 à l'occasion des JO, 4 championnats du monde, 3 euros. Alors là, on peut parler des sportifs
chapeau,
français.
Voilà. Chapeau, voilà, c'est magnifique.
Pour Fernandez, il a rien fait, quoi. Enfin,
alors, sinon, ça a été un joueur majeur quand même.
C'est un joueur qui est important dans le vestiaire.
Mais après, c'est le troisième entraîneur, en fait. C'est l'entraîneur adjoint de Dinard, quoi.
Ouais, ben, on en avait un peu parlé la dernière fois. Tu sais que le système de fonctionnement de Claude Onesta est très particulier. C'est-à-dire que Claude Onesta, en fait, je sais pas si t'as vu un peu sur l'état mort, etc.
Il parle pas.
En fait, c'est tous ces entraîneurs, c'est Dinard, c'est probablement Fernandez dans quelques années.
C'est Karabatic.
C'est les joueurs qui, lui, il est là, il donne quelques consignes, il donne des consignes d'avant-match, il donne des grandes lignes, et après, c'est vrai que c'est Sylvain Noué, Didier Dinard et tout le staff qui gère. Et lui, c'est vrai que c'est sa façon de faire, qui est d'être plus un manager plutôt que véritablement un entraîneur.
Meilleur joueur du tournoi, Patrick?
Au meilleur, d'abord, il a été élu meilleur joueur du tournoi. Bon, et puis après aussi,
une
quand même,
collection de montres.
Il faut reconnaître que Nicolas Karabatic, voilà.
Alors, il est dans le 7.
À mon avis, il y a eu un classement dernièrement sur l'équipe, et l'équipe vient de le nommer meilleur joueur d'handball de tous les temps. Et je suis assez d'accord avec ce classement. Je pense que c'est le meilleur joueur de tous les temps au niveau d'un ballon.
Avec Omeyer. Ouais, mais ce n'est pas les mêmes postes.
Voilà, c'est pas les mêmes postes.
Par contre, ça, c'est qu'on se rend compte que ça fait 20 ans que l'équipe de France est au plus haut niveau du handball mondial et qu'il y a encore de la relève. Et ça, c'est plutôt bien.
Alors on dit que Omeyer a été fabuleux. C'est vrai, d'ailleurs. Mais enfin, le gardien du Qatar...
Le gardien du Qatar, c'est le meilleur gardien du monde. C'est un des meilleurs gardiens du monde.
Alors, c'est qui le meilleur gardien du monde?
Entre les deux.
Hier, les stats étaient pour le Qatari.
C'est Geoffrey Jourdain, le meilleur gardien du monde.
La grande force de tirer au meilleur, c'est d'être décisif quand il faut l'être. C'est-à-dire que faire les arrêts qu'il faut pour empêcher le Qatar de revenir à égalité. Et voilà.
Allez, on part pas sur un autre débat, sinon on peut pas parler d'autres sports.
Ah, par contre, j'ai bien aimé. Alors juste,
vas-y, Laurent.
Le petit jeune, alors je connaissais pas, je sais même pas dans quel club il joue, le black, là, ailier droit, là.
Kevin Nyokas.
Il joue en Allemagne.
Ouais, il joue en Allemagne. Alors, il y a le petit Quentin Mahé aussi, dont le papa Pascal Mahé a été.
Tu parlais des joueurs qui sont venus à Mende. Il y avait Xavier Barraché, qui était venu faire un match amical contre Saint-Raphaël, entre Saint-Raphaël et Montpellier.
Et qui avait tweeté de sa chambre de l'hôtel Mandois où il était en disant c'est un peu.
Et qui avait fait fureur auprès des jeunes supportrices mandoises.
Voilà. Qui ça?
Xavier Barraché.
Allez, le
chef. Je pensais à Mahé, je me dis, il n'est pas dans la chanson, lui, plutôt.
Pascal?
Non, c'est Christophe. Okay. Mahé qui a signé à Montpellier, je crois.
Non, c'est Porte.
Valentin Porte.
Pour dire que ce petit ailier droit, qui doit être grand, je pense.
Ah, bah, il fait presque 2 mètres, Kevin Nyokas.
Super, quoi. Il a oublié Lucas Ballot, il doit se dire, mais
alors qu'il avait quasiment pas joué tout le mondial.
C'est comme Barraché, tu vois sa gueule d'enfant, tu te dis, putain, sur le terrain, ils sont tous grands, tu le sais pas, tu dis, il est un peu frêle, tout ça, il fait un 96, 95 kilos.
Et Mathieu Gréby aussi, le Montpellierain, qui s'est malheureusement blessé, mais qui a fait un très bon... qui est en train de vraiment de monter
en puissance.
Il a fait une belle gamelle, surtout, quand il s'est blessé.
Allez, vite fait. Dans le 7 majeur du mondial, on retrouve Omeyer et Karabatic. Voilà. Après, il y a des Espagnols, etc.
Il y a des Qataris ou pas?
Il y a Capote qui est là. Allez, en basket, un nouveau record pour Tony Parker. Alors, il est devenu le joueur NBA le plus rapide à atteindre les 700 victoires. Le Français a eu besoin que de 973 matchs pour atteindre ses 700 victoires. Alors, il devance Michael Jordan, Kobe Bryant et compagnie. Un record de plus, c'est fou, quoi.
Ah, mais c'est moi, énorme. J'adore Tony Parker pour tout ce qu'il est et tout ce qu'il représente et tout ce qu'il fait pour la France, alors qu'il pourrait mettre le clignotant depuis des années. Et bon, voilà, moi, j'adore ce joueur. Et voilà, donc j'adore non seulement le joueur, mais aussi le personnage.
La mentalité, ouais.
Ouais. Ouais, bah, il est aussi super bien entouré avec un super coach, avec celui des San Antonio Spurs,
c'est
Greg
sûr,
ouais. Popovich, et c'est vrai que
mais bon, c'est un bon non, il a énormément de talent, quoi.
Ah bah, il est très fort.
700 victoires, 973 matchs, ça veut dire que dans sa carrière NBA, il a que
273
défaites. Ouais.
Ah, c'est fabuleux, c'est énorme.
C'est énorme. Hein.
Nous, on ne sera pas compte parce que c'est vrai qu'on voit ça un peu de loin, mais. C'est quand même là aussi on parlait de Nicolas Karabatic, bon ben Tony Parker c'est bien évidemment le joueur français,
si Tony
le
meilleur Parker joueur français avait été américain,
il serait dans l'équipe NBA. Ouais.
Ah bah, il serait, oui,
qu'est-ce que tu veux parler de Jérémy Morel, c'est ça?
Non, de Tony Parker qui aussi ne pense pas qu'à lui puisqu'il met pas mal d'argent je crois dans le club de Villeurbanne.
Il est le président. Donc,
d'ailleurs il y a trois joueurs français qui sont présidents de clubs, qui investissent dans des clubs. Il y a Tony Parker à Villeurbanne, il y a Boris Diaw à Bordeaux en deuxième division et Nicolas Batum là qui vient de s'engager auprès du Mans, un de ses clubs formateurs.
Donc c'est bien de penser aussi.
C'est très bien. Ouais. Ouais, c'est très bien.
Après à des comptes à 73 000 euros les 5 ans. 73 millions d'euros les 5 ans, on peut réinvestir aussi.
Ouais, mais non, il est obligé, quoi.
Bah, on n'est pas obligé, ouais, mais bon,
après,
tu en fais quoi?
Il a
acheté 4 yachts.
Il a son propre terrain de basket.
Il a la radio 48 FM. Si vous...
48 FM. mais après, c'est pas, ils mettent pas nécessairement
l'argent.
On parle
tous les lundis de lui, s'il veut.
C'est pas nécessairement une question d'argent. C'est surtout qu'ils s'impliquent aussi dans le côté sportif. Qu'ils ont pas mal de relations et qu'ils en font profiter.
Mais tiens, une bonne nouvelle, c'est que son ex-femme, Eva Longoria, est disponible maintenant. Donc,
voilà.
Mais bon, ça gâche rien.
C'est compliqué. Mais c'est vrai que souvent, on imagine le basket, on pense au rap, on pense. À des gens qui sont pas obligatoirement ouverts à ce niveau-là, de se dire tiens je vais aider le basket français, les jeunes à se développer. C'est des gens qui sont extrêmement attentifs à ce qui se passe dans leur pays.
Oui, c'est vrai, tu as raison de le dire. Ils font des camps, ils organisent des camps, pendant les vacances.
Ce qu'on ne sait pas, c'est qu'il y a beaucoup de joueurs NBA qui ont des fondations, la NBA donne beaucoup, oblige aussi souvent, très souvent les joueurs, notamment pour le All-Star Game, etc., oblige à aller rencontrer les enfants, à faire des cliniques, des ateliers avec les gamins, et visite souvent les écoles et les clubs sont ça c'est très américain, très très impliqué dans la vie locale des villes dans lesquelles ils sont implantés.
Alors j'ai une question, il est 1h30, est-ce qu'on s'arrête là ou on pousse un peu pour parler de la Ligue 1 et de la CAN? Est-ce qu'on est fou?
Il est super match, quoi, Marseille
fou, tonneau, allez, quand même, on va parler.
C'est fabuleux, ce match. Attends,
moi je veux qu'on parle,
régalé
un peu de la CAN.
On s'est régalé parce qu'on a gagné.
Allez, les matchs Laurent, avec cette énorme victoire de Marseille qui écrase la grosse équipe.
Pénalty indiscutable.
Un but à zéro. Gazard, on sait même pas comment il s'appelle. Et Evian Tonon Gaillard.
Voilà, c'est ça.
C'est ça.
ETG.
Allez, les
PSG qui bat Rennes 1-0. Lens Sébastien 1-1. Nantes Lille 1-1. Lorient Montpellier gros match 0-0. Metz Nice 0-0. Toulouse Reims 1-0. Caen Saint-Étienne 1-0. Tiens, et Bordeaux, Guingamp 1-1 et Monaco, Lyon 0-0.
Alors, grosse journée.
Je vous vois justement, et avant de passer au classement, moi, ce week-end, j'ai entendu beaucoup de journalistes sportifs, de chroniqueurs, de commentateurs, de supporters qui parlent des nombreux matchs nuls, des peu de buts, etc. Alors, moi, je trouve par contre que cette année, ce championnat est passionnant, aussi bien en tête que derrière, avec des équipes de tête qui se tiennent à 2 points d'écart. Je préfère retenir ça que le peu de jeux et de buts. Il fait froid, on le sait, etc. Le classement, Laurent, devant, et au fond du classement, ça se tient.
Devant, donc, on a trois équipes à 2 points, là, Lyon 49, Marseille et Paris 47. Saint-Étienne est quatrième avec 7 points d'écart, donc c'est 40 fini, points. Ouais. Ex-aequo avec Monaco, 40 points. Montpellier est sixième avec 36 points, donc là aussi est décroché.
Passe au 14e.
Alors, on passe le 14e, donc il y a 25 points, c'est Toulouse avec Caen, Bastia, Lorient qui a 24 points. Et Tonon juste derrière à 23.
Première légale.
Lens et Metz qui ont 21 points chacun.
C'est très 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 serré en bas.
Au fond du classement.
Ouais. Alors sur ce championnat, Patrick.
Mais ça va continuer à se bousculer parce qu'il y a des gros matchs qui arrivent. Il y a Lyon PSG dimanche prochain. Et de suite après, il y a Saint-Étienne-Marseille, par exemple. Donc, il va y avoir de gros matchs. On ne sait pas trop comment ça va tourner. Hein. L'incertitude est totale et je suis d'accord avec toi. C'est un championnat passionnant. Alors, des fois, il y a des matchs plus ou moins intéressants, mais dans le global, c'est pas mal.
On sait que c'est une période difficile, que les équipes, on arrive à une période où elles sont fatiguées, il fait froid et compagnie. Ouais. On voit Paris qui gagne difficilement 1-0, mais qui gagne. Marseille qui gagne difficilement 1-0, mais qui gagne.
Et on voit Lyon qui
fait 0-0.
Lyon sur la casette, ouais.
Donc, c'est ça aussi, c'est savoir gagner à ce moment du championnat.
C'était d'ailleurs assez insupportable la deuxième mi-temps hier de Lyon-Monaco parce que voilà, c'était assez soporifique. Mais Lyon qui a eu du mal sans la casette et Monaco qui a un peu marqué le pas aussi parce qu'il ne faut pas les oublier, c'était sur une super série, Monaco il remontait bien.
Ouais, mais ils perdent pas Monaco.
Après, Monaco et Paris sont toujours impliqués dans les quatre compétitions. Donc il va arriver la Ligue des Champions qui va bientôt arriver, ça pourrait se terminer très vite hein, ceci étant, oui. Pour les deux équipes. Je pense que ça va être très intéressant et surtout en bas de classement il y a entre Toulouse qui est 14e et Metz qui est 20e, il y a 4 points. Franchement, Lens, quand on voit jouer Lens, ils jouent super bien. Bon, ils savent pas conclure, ils savent pas marquer, mais s'ils ont le déclic et qu'ils ont un mec qui commence à planter des buts, ben il va falloir compter sur eux. Evian qui a encore une fois recruté à peu près deux équipes au mercato. Bastia qui réussit à battre Paris 4-2 la dernière fois et puis après qui n'arrive pas à confirmer. En bas de classement, c'est pas gagné non plus.
Ni en haut, ben le remontier est protégé de Ludovic là. Montpellier est passé sixième.
Joue l'Inter
avec 4 points d'écart sur Monaco, mais
ça n'existe plus.
Bon, c'est bien.
Ça n'existe plus. Heureusement.
Ils ont recruté un Suisse d'ailleurs.
Ouais.
Vutrich. Apparemment, il passait la visite médicale hier après-midi. Donc
Jonas Martin s'est
blessé.
Attention,
Ocampos pourrait signer à Marseille. Hein.
Ouais, Ocampos à Marseille. Ouais.
Ce soir.
Et Doria. Et Doria.
C'est une bonne recrue. Hein.
Et Doria à Lorient.
Ouais. Voilà. Ça, j'y crois pas trop, mais bon, Ocampos, pourquoi pas.
On l'a dit.
De toute façon, entre le pauvre Doria, il a.
Non, mais Doria plutôt à l'étranger, quoi.
Oui.
Doria l'explorateur.
De toute façon, Lorient n'a pas de thunes, ils peuvent pas nous l'acheter, quoi.
Bah non, c'est pour un prêt.
Un prêt?
Un prêt, oui, ouais. Bien sûr.
Allez.
Après, le mec, il joue, ça te coûte rien, ça coûte pas grand chose au club qui le récupère, et toi, ça te permet d'avoir un joueur qui joue, finalement.
Enfin, s'il joue qu'en réserve, quelle idée de le prendre pour.
T'as le garder en réserve plutôt que le prêter à Lorient, finalement.
Oh bah,
la réserve joue la montée, les premiers.
Ouais. Ils ont gagné contre la réserve de l'Ajaccio.
T'as le garder pour la 2, du coup.
Enfin, excuse-moi, t'as un mec qui est international espoir brésilien, c'est quand même plus intéressant pour lui, qui joue en Ligue 1.
Mais là, on pense pas à lui, on pense au club.
Bah, si, tu penses au club. L'année prochaine, le mec, tu le fais jouer en Ligue 1, il aura pas du tout le rythme. Enfin, moi, je pense qu'il vaut mieux qu'il joue en Ligue 1.
Ah, c'est dommage, parce que moi, j'aimerais vraiment le voir jouer. Surtout que tu vois. Certains joueurs en défense, voilà, il aurait mérité de jouer quand même.
Après, je fais confiance à Bielsa. S'il joue pas, c'est pas pour rien.
Peut-être.
Ouais.
C'est allez.
Pas trop. Là, on sait pas trop pour le coup.
Enfin, il a dit clairement qu'il avait pas un niveau dans la Ligue 1, quoi. Donc,
bon. Il a dit, hein. Oui. La CAN hier, une finale avant l'heure, Côte d'Ivoire-Algérie, la qualification de la Côte d'Ivoire, 3 buts à 1 avec 2 buts de Bonnier, c'est le joueur africain le plus cher de l'histoire qui a été acheté 40 millions d'euros par Manchester City.
Ouais.
Alors, je le connaissais pas, j'ai pas vu le match.
Bonnier joue à 66.
Il joue à Sandy,
ouais,
il a été
transféré au
Mercato juste avant la CAN. Et moi, je note la réaction d'Hervé Renard, donc le coach de la Côte d'Ivoire, qui a quand même dit que c'est l'équipe d'Algérie qui a été bien meilleure, mais que bon, on va pas demander, ils n'allaient pas demander pardon parce qu'ils avaient gagné 3-1.
Gourcuff a dit aussi, on méritait de gagner.
Ouais. Mais Renard a dit que l'Algérie avait
été
clairement meilleure que l'équipe de Côte d'Ivoire.
Dès le début de la compétition, j'ai dit que l'Algérie me semblait vraiment très confiante, certainement trop confiante. Et bon, on voyait les interviews, là, en particulier de Brahimi, celui qui joue à Porto, Feghouli, celui qui joue à Valence et qui ont été formés en France. Et bon, ils se voyaient déjà vraiment quasiment en finale. Et bon, voilà, je pense qu'ils ont été un peu trop confiants et un peu trop sûrs d'eux, même si c'est vrai. Que sur le papier, ils ont la meilleure équipe.
Après, Brahimi, j'ai trouvé loin de son niveau et de la Coupe du Monde et de ce qu'il fait à Porto en ce moment.
Oui, alors entre quart de finale, Ghana 3, Guinée 0. Ouais. Donc les demi-finales. Alors mercredi.
Ah ouais, j'aurais préféré qu'on parle de cette fabuleuse demi-finale entre la Tunisie la Guinée équatoriale, pays organisateur.
On va en dire un mot parce qu'on a parlé de l'arbitrage. Luc, explique-nous, rappelle-nous ce qui s'est passé.
Ah ben la Tunisie qui mène 1-0 à la 90e minute avec une domination quasi complète pendant tout le match, parce que je crois que les Guinéens ont tiré une fois au but. Et là, l'arbitre qui est allé sortir un pénalty, alors je pense que tout le monde s'en étonne. C'était totalement imaginaire. Il était à un mètre de l'action.
C'était un scandale, ouais.
Mais il y a un truc, on parlait du Qatar au handball, mais tu regardes l'équipe de Guinée équatoriale.
Oui,
tout à fait. Il y a un, deux, trois, peut-être un maximum quatre joueurs qui sont nés en Guinée équatoriale. Ouais. La majorité des joueurs de cette équipe, ils jouent en D2 ou en D3 en Espagne.
Ou au Portugal.
Ou au Portugal. Donc là aussi, c'est une équipe totalement de mercenaires et avec une exploitation du règlement que la FIFA autorise.
Mais que la FIFA a changé depuis. En fait, ils ont été naturalisés et depuis, la FIFA a changé et en rajoutant cette fameuse clause là qui doit être, il doit avoir un lien direct avec le pays. Soit y vivre depuis deux ans, soit avoir de la famille directe.
Ouais, les Tunisiens étaient très en colère.
Ouais, mais c'est sûr. Si
se comprend.
Il y a un pénalty complètement hallucinant, les arrêts de jeu, et après tu pars en prolongation.
Il y a un truc qui m'a fait halluciner, c'est que tu regardes les stats à la fin du match. Il y a 10 fautes sifflées contre la Guinée et 40 sifflées contre la Tunisie.
Quelque part.
Et ce qui est extraordinaire, c'est que il y a sur la dernière minute, il y a deux, trois minutes d'arrêt de jeu. Il y a une espèce d'échauffourée dans les arrêts de jeu qui arrête le jeu pendant une minute et l'arbitre laisse pas finir les arrêts de jeu normaux. C'est ici à 2 minutes 50.
Même avant les
oui, ici à 2 minutes 50 alors qu'il y en avait 3 de. Ah. Enfin,
bref. Ouais, ça redore pas le blason de ce football africain où on parle toujours de corruption et compagnie. Malheureusement. Alors donc les demi-finales mercredi République démocratique du Congo contre Côte d'Ivoire, jeudi Ghana contre Guinée équatoriale. Allez, vient le moment des paris. On va parier sur le vainqueur de l'épreuve. Alors je rappelle parce que Laurent n'écoute pas, il est en train d'envoyer des SMS à je ne sais pas qui, je ne veux pas le savoir. République démocratique du Congo, Côte d'Ivoire, et ensuite on a Ghana Guinée équatoriale. Patrick.
Ghana.
Côte d'Ivoire. Parce que je pense que la Guinée équatoriale ira en finale.
Moi, j'ai dit
zéro but sur pénalty.
Ghana et Côte d'Ivoire aussi. Alors, je vais laisser Laurent choisir.
Ouais, non, mais moi, ça sera le Ghana par rapport au frère Ayou, quoi.
Allez. Mais moi, je vais dire Côte d'Ivoire, ils auront un jour de plus de récup.
Ouais. Ouais, ça joue. En même temps, j'aimerais bien voir le Congo, la République démocratique du Congo, gagner pour voir leur gardien se taper les fesses par terre encore.
Et tu parlais du Congo. Pas celui-là, puisque la République démocratique du Congo a éliminé le Congo. Donc là, c'était un derby incroyable. Et donc, dans cette équipe du Congo, Destin Onka, notre gardien de l'AFL, aurait très bien pu être dans cette sélection. Et bon, je pense qu'il doit quand même avoir une pointe de regret parce que le gardien titulaire de cette équipe du Congo, il joue en CFA au Ponte. Destin aurait très bien pu faire partie de cette sélection. Ouais. Alors peut-être pas gardien numéro 1, mais au moins gardien numéro 2 ou gardien numéro 3, comme c'était convenu au départ, puisqu'il avait annoncé lui-même son départ de l'AFL pour jouer cette CAN.
Pour aller au Congo, d'ailleurs. Et Destin et Yann Kombo qui avaient gagné la CAN junior au Congo.
2007.
Ouais, je crois que c'est ça. Ouais.
Allez, on va suivre, on écoutera la semaine prochaine. J'imagine que si c'est mercredi, jeudi, la finale doit être dimanche.
Oui, c'est ça.
On verra qui a gagné. Allez, rapidement, on termine cette émission disant que débutent demain jusqu'au 15 février les mondiaux de ski alpin à Vail Beaver Creek aux États-Unis. Alors, bonne chance à nos Français, nos Françaises. Laurent est sur le coup pour suivre ces mondiaux.
Surtout les Français, parce que les Françaises...
Surtout les Français. Alors, Laurent est sur le coup, il va suivre ces championnats du monde. Et chaque lundi, on aura une rubrique dorénavant qui s'appellera « Les championnats du monde de ski » par Laurent.
Hein, voilà.
C'est ma grande passion. Ça te fait chier pour trouver le titre.
Il était au Mulhouse tout le week-end, donc c'est bon, il s'entraînait.
Il a visualisé la descente.
Le ski, j'aime pas. Je sais pas vous, les gars, mais...
Si, moi, j'aime bien en faire.
Ça fait froid aux pieds.
Ça sera ta chronique, Luc. T'as bien fait de parler. Moi, j'aime pas non plus. Allez, c'est vrai que toi, t'es spécialiste de golf. Ciao, les mecs. On se retrouve lundi prochain.
À bientôt.
Et on aura peut-être le basket en invité. Ciao, ciao.
Allez, salut.
Bye.
Leslie John au couloir en numéro 2. Allez, c'est parti pour Leslie John.
De la performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, supermarket. Je ne dis rien.
C'est le moment, c'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside. Pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier.
Je ne regarde pas.
Allez, mon petit bonhomme.
Il t'a dit apéro.